Ça démarre l'enregistrement ou c'est bon? Merci, David. Donc c'est le troisième et dernier message pour ce mois sur le réveil. Nous avons vu le premier, l'importance ou le besoin, pardon, de nous réveiller. C'était le premier message. Le second, c'était le réveil par la prière, le fait, l'importance de demander à Dieu de venir nous remplir de son esprit, manifester sa gloire et ceux qui l'ont demandé, ils l'ont eu. Donc, il faut le demander, il faut prier de plus en plus et avec cet esprit de réveil. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle vision de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, un peuple de Dieu réveillé, c'est un peuple de Dieu saturé de la présence de Dieu. Et comme une éponge qui est saturée d'eau, les chrétiens réveillés sont saturés de la présence de Dieu. Ils ont connu quelque chose, un peu comme Moïse, quand il est revenu de la montagne, son visage brillait, parce qu'il était saturé de cette présence. Il a passé plusieurs fois 40 jours devant Dieu. Et il ne s'est pas ennuyé, il n'était pas malade, il n'a pas souffert, il était au contraire, il brillait. Pourtant, il n'a pas beaucoup mangé, je pense. Mais là, il a rencontré le Seigneur. Et c'est ce qui se passe dans les réveils, il y a une nouvelle vision de Dieu. Peut-être que vous allez à l'église depuis bien longtemps, mais est-ce que vous avez rencontré Dieu à l'église? Est-ce qu'on rencontre Dieu quand on va aux réunions de l'église? Parce qu'en fait, l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est quand on est réunis. Est-ce qu'on trouve le Seigneur quand on est ensemble? Ou est-ce que c'est juste un club où on est bien ensemble, mais Dieu passe en second? Est-ce que Dieu, bien que je le connaisse, bien que je sois sauvé, je suis un enfant de Dieu, est-ce qu'il reste pour moi quelqu'un quand même de lointain? Quelqu'un d'incompréhensible, où je ne suis pas sûr vraiment où il est et ce qu'il fait? Est-ce que c'est plus intellectuel pour moi? Dieu est un être théologique? Ou est-ce que j'ai vraiment l'expérience de Dieu? Est-ce qu'il est mon Dieu? Est-ce qu'il est mon Père? Est-ce qu'il est mon Sauveur? Mon Seigneur. Et le réveil spirituel, c'est lorsque les chrétiens réalisent la présence de Dieu dans tout leur être, d'ailleurs c'est physique, moral et spirituel, ils réalisent la sainteté de Dieu surtout, et c'est ça qui fait mal au début. Ils réalisent juste après la grâce de Dieu qui pardonne nos péchés, et ils réalisent l'amour de Dieu qui nous remplit et qui nous fait aimer les autres, tous ceux qu'on croise. Il y a un pasteur gallois qui est assez connu dans le monde évangélique, qui s'appelle Martin Lloyd-Jones. Il a été pasteur de 1943 à 1968 dans le Westminster Chapel à Londres. Et il a connu un réveil là à Londres, dans sa congrégation. Et c'était un homme de Dieu, très sérieux, très strict, et ses messages étaient assez longs. Il exposait la parole de Dieu, il prenait verset par verset. C'était pas du tout spectaculaire, mais il y avait la sainteté, la présence de Dieu. Et un jour, Dieu a exaucé les prières de cette congrégation, a envoyé un réveil, il est venu en puissance. Et voilà ce qu'il raconte, il dit « L'effet immédiat du réveil, c'est que les personnes présentes commence à réaliser les choses spirituelles et en avoir une vue plus claire qu'elles n'ont jamais eue auparavant. Je veux parler bien sûr des croyants, membres de l'Église chrétienne, quand ils deviennent soudain conscients de cette présence de Dieu, de cette puissance. Le premier effet étant que les choses spirituelles deviennent une réalité. Ils avaient entendu parler de ces choses auparavant, des milliers de fois même. Mais ce qu'ils disent maintenant, c'est, vous savez, tout est devenu très clair pour moi. J'ai eu comme une illumination. Les choses qui étaient familières, un peu routinières, d'un seul coup sont devenues essentielles, comme si elles étaient écrites en lettres d'or. Je voyais tout d'une façon nouvelle dans ma vie. Et ce qu'ils disent, écrit Martin Lloyd-Jones, c'est que le Saint-Esprit est venu illuminer leur cœur et leur esprit. Ils commencent à voir les choses spirituelles avec une clarté soudaine et en ressentir la puissance. Un autre serviteur de Dieu, Duncan Campbell, un Écossais, il est mort en 1972, et lui, il a connu un réveil en Écosse dans les Hébrides, les fameuses îles là. Il raconte, d'abord, c'était la présence de Dieu. Il fallait la ressentir pour qu'elle soit vraiment réalisée dans nos vies. Moi, j'ai vu des hommes de la campagne, un peu rustres, qui étaient tellement submergés par la présence de Dieu qu'ils restaient plusieurs minutes prostrés à genoux. L'un d'eux même me disait, j'avais l'impression que l'herbe sous mes pieds et les pierres autour de moi me criaient, fuis, va te réfugier en Christ. Beaucoup sont venus à la foi en Christ dans la région, sans même connaître l'assemblée où ça avait démarré, simplement la présence de Dieu qui se faisait ressentir dans toute la région et qui convainquait de péché les habitants des Hébrides. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a vécu une rencontre, il y en a plusieurs, mais j'aimerais qu'on regarde Ésaïe au chapitre 6 de son livre, qui a une rencontre quand même marquante. Ésaïe chapitre 6. Il était encore un jeune prophète, mais il est, Ésaïe, le prophète des rois d'Israël, des rois de Juda. Et là, il était sous le roi Ozias. Ce n'était pas un prophète du peuple, si on peut dire. Lui, il était aux côtés des rois et il leur annonçait la parole de Dieu. Il les reprenait quand ils s'écartaient et il les consolait ou les encourageait quand ils se doutaient de Dieu. Et donc, il avait un ministère très particulier, Ésaïe. C'est un très grand prophète parce qu'il a beaucoup de prophéties messianiques. Son livre a 66 chapitres. C'est un très grand livre. C'est, en fait, il a prophétisé toute sa vie. Les 66 chapitres, c'est quasiment toute sa vie où il a prophétisé sur le Seigneur. Et voilà ce qui est écrit en chapitre 6. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison de Dieu, le temple, se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Voilà, c'est un passage extraordinaire, Ésaïe, qui est ce jeune homme, jeune prophète, plein d'entrain, qui a déjà des révélations de Dieu pour faire au roi, et là, il va au temple pour chercher le Seigneur, et il va trouver le Seigneur. Il va avoir une vision de la gloire de Dieu. Peut-être qu'il est rentré dans le lieu saint, ça n'est pas dit, là où il y avait l'autel des parfums, où il y avait la table des pains de proposition, là où il y avait le chandelier. C'était une pièce très sombre, il n'y avait aucune lumière, mis à part le chandelier, qui symbolise le Seigneur lui-même avec sa lumière pour nos vies. Et là, je pense qu'il devait prier habituellement, mais ce jour-là, ce n'était pas habituel. Dieu s'est manifesté. La porte, les portes étaient ébranlées. Il y avait de la fumée, il y avait une voix. Quelle était cette voix? La voix de Dieu, la voix des séraphins, des anges aussi. Les séraphins, ce sont les séraphim en hébreu, les anges qui sont tout près de Dieu, qui veillent sur la gloire de Dieu, comme les chérubims aussi, les chérubins dont faisait partie le diable avant qu'il chute. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et là, c'est l'idée que Dieu est très très grand. Il voit la grandeur de Dieu, un trône très élevé. Il voit que Dieu règne, qu'il est immense. Il n'a pas un petit Dieu là. Hein. Nous, on limite tellement Dieu. On le rapetisse. Ah, oh, si tu pouvais, si tu faisais, et pourquoi tu n'es pas là. Et on se fait une idée humaine de Dieu. Et là, il voit Dieu tel qu'il est, dans sa grandeur, sa majesté, son règne. Il dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Il voit combien Dieu veut remplir toute chose. Hein, il voit la hauteur et il voit la largeur. Hein. Et c'est un peu ce que dit Paul hein, dans une de ses épîtres, en Éphésiens. Il dit que vous compreniez quelle est la largeur hein, et la hauteur de l'amour de Christ. Et là, il voit cette hauteur et cette largeur du Seigneur qui remplit tout et qui est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et il est frappé par cette vision. Il entend la voix, les voix probablement des anges séraphins qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et à chaque fois qu'ils disent « Saint », lui sent son péché. Hein. « Saint » et trois fois « Saint », c'est ce qui fait penser que c'est une allusion à la Trinité. Hein. Le fait que la Trinité est trois fois sainte. Hein. Le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. Et ça montre aussi que Dieu n'est pas juste saint. Il n'est pas juste saint, saint, il est saint, saint, saint. Il est absolument saint. Sa sainteté nous dépasse. Elle est telle qu'il n'y a aucune once d'ombre, de ténèbres. Il n'y a rien de mauvais. Nous, même l'homme le plus juste, il y a une part d'ombre dans sa vie. Mais en Dieu, il n'y a aucune ombre. Et c'est ce qui fait que face à cette sainteté, on se sent tellement sale, tellement pécheur. Il a cette nouvelle vision de Dieu et sa vie ne sera plus jamais la même. C'est arrivé à d'autres hein, dans la Bible. Il y a Abraham, il s'appelait encore Abraham, à Mamré. Il a rencontré le Seigneur face à face. Jacob, lorsqu'il s'est battu avec le Seigneur, lui, carrément, avec l'ange de l'Éternel. Hein, et il dit, j'ai vu Dieu face à face. À Bethel, la maison de Dieu. Moïse, dans le désert, il a vu aussi le Seigneur, il a vu la gloire de Dieu, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gédéon, sous un chêne hein, d'Ophra, il a vu l'ange de l'Éternel, il a vu le Seigneur aussi, qui se manifestait sous forme d'ange, c'était déjà le Fils de Dieu hein, qui se manifestait sous forme visible. Samuel, qui a entendu la voix de Dieu, qui lui disait, Samuel, Samuel, qui l'a réveillé la nuit, et Samuel a entendu le Seigneur, il a parlé avec lui toute la nuit, et Dieu lui a révélé sa première prophétie. Paul, sur la route de Damas, il était là avec sa haine et son orgueil, hein, pour arrêter les chrétiens et les faire tuer, et le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur ressuscité. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Étienne, juste avant de rendre l'esprit, hein, en étant lapidé, il a vu la gloire de Dieu. Et quand il l'a dit, ça a choqué tout le monde. Il dit, je vois le Seigneur dans son temple. L'apôtre Jean, au début de son livre de l'Apocalypse, il a une telle vision de Jésus ressuscité qu'il tombe évanoui. Il faut que le Seigneur le touche et dit, ne crains pas, et le relève, parce qu'il voit la sainteté, la gloire. Et quand vous lisez la description de Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 1, ça n'a rien à voir avec le Jésus terrestre, si on peut dire. Là, c'est le Jésus céleste, glorieux. Il dit, sa voix était comme des chutes d'eau, hein, les chutes du Niagara. Il avait le feu qui brûlait partout. C'est la sainteté. C'est ce qu'a vu Ésaïe a vu le Fils de Dieu, en fait. Hein. Dieu est invisible, le Père est invisible, si on peut dire. Hein. Mais le Fils, c'est celui qui se manifeste aux hommes visiblement. On appelle ça en théologie une théophanie, une révélation hein, de Dieu, lorsque Dieu se révèle à nos yeux, à nos sens. Dans les réveils, c'est ce qui se passe. Tous ceux qui les ont vécus, ils disent, c'est comme si Dieu entre dans l'église, il est là, et tout le monde est comme Ésaïe devant Dieu. Tout le monde. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Il faut fuir l'église pour y échapper. Dans ce témoignage que notre sœur m'a passé sur le réveil au Pays de Galles, celui qui écrit raconte ce qu'il a ressenti. Il dit, j'étais là dans cette réunion et il y avait la présence de Dieu. Il y avait les gens qui pleuraient, qui gémissaient, qui tombaient à genoux en pleurant, en demandant pardon pour leurs péchés. Et il dit, moi, je me croyais assez bien, assez juste, mais il dit, au bout d'un moment, de la présence de Dieu dans ma vie, j'ai commencé à soupirer, à dire, mais je suis vraiment pas bon, je suis orgueilleux, je suis sale. Et il a réalisé cette présence de Dieu là. Il dit, jamais, ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, il dit, j'allais à l'église, mais il n'y avait jamais eu ça avant, comme ça. Dans 1 Corinthiens 14, 25, c'est Paul qui parle de cette première église, hein, 24, 25, il dit, si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ce qui se passe dans les réveils. C'est pas que les chrétiens jugent les gens qui rentrent en disant, oh, toi, tu as fait des péchés. C'est pas dans ce sens-là, hein. C'est que les chrétiens sont tellement baignés dans la présence de Dieu que le visiteur qui entre, il est pris dans cette présence sainte de Dieu et il dit, mais je suis pécheur. Douglas Brown, en 1921, a connu un réveil à Lowestoft, dans le Suffolk, en Angleterre. Et il raconte, le réveil a commencé avec une vision, et la vision a commencé avec une nouvelle appréhension de Jésus-Christ. Le réveil n'apporte pas de nouvelle théologie, il apporte une théophanie. Il commence avec une révélation de Jésus-Christ lui-même et un sentiment de proximité avec notre Maître. Il dit, le réveil, c'est ça, c'est quand on est en contact avec le Seigneur. Le Seigneur est esprit. On ne peut pas le voir, le toucher, c'est même pas d'entendre sa voix, mais c'est que sa présence est ressentie d'une façon phénoménale. Bien avant cette époque, en 1727, en Saxonie, donc c'est l'ancienne Tchécoslovaquie, le comte Zinzendorf, on vous parle souvent du comte Zinzendorf, c'était dans un petit village qui s'appelait Erneut, où il y a eu un réveil qui a duré de nombreuses années chez les Moraves. Et ces Moraves ont rempli le monde de missionnaires. C'est un tout petit village au départ, mais il y a eu beaucoup d'âmes sauvées, et ces âmes sauvées sont parties missionnaires. Certains sont allés au pôle Nord au XVIIIe siècle, hein. Déjà aujourd'hui, c'est dur, mais alors au XVIIIe siècle, aller au pôle Nord voir les Esquimaux, les Inuits, c'était quelque chose. Et c'était l'amour de Christ qui les portait. Et il dit, lorsque le réveil est venu, le sentiment que Christ était très proche de nous, nous a été donné à tous en même temps dans la réunion. Et ce que le Seigneur a fait dans ce lieu pendant une année entière est inexprimable. Tout ce lieu était comme le tabernacle de Dieu parmi les hommes. 1742, Cambuslang, Langue, Pays de Galles. Les chrétiens ont témoigné que pendant le réveil, il y avait la présence sensible et gracieuse de Dieu dans toute la région. Le Pays de Galles a été particulièrement marqué par la présence de Dieu. Donc ça, c'est 1742. Il y a eu un autre réveil en 1850 au Pays de Galles. Il y a eu un troisième réveil en 1904. Il y a vraiment une continuité de réveil dans ce Pays de Galles. Beaucoup de chrétiens, hein, gallois qui cherchaient le Seigneur et qui priaient pour le réveil. Et je pense que ça se transmet. C'est pour ça aussi que je voulais faire ces messages. Nous n'avons pas connu un réveil de cette sorte, mais d'entendre des témoins qui l'ont vécu, de savoir que ça existe, de chercher la présence du Seigneur, même si on n'a pas un réveil comme eux exactement, peu importe, mais qu'on cherche les choses essentielles à les vivre, pas juste de la théologie, ça nous fait du bien, c'est très important pour nous. 1906, un réveil encore en Écosse à Édimbourg. C'est Joseph Kemp qui raconte. Il dit, soudain, et c'est souvent soudain, il arriva sur chacun d'entre nous dans l'église, et l'un après l'autre, le sentiment écrasant de la réalité de Dieu et de sa terrible présence et l'éternité devant nous. 1907, en Corée du Nord, Pyongyang, hein, chaque personne qui rentrait dans l'église ressentait la présence de Dieu très fortement. Cette nuit, à Pyongyang, dit un témoin, Dieu était tellement proche qu'on ne peut même pas décrire à quel point. Cette crainte de Dieu, cette révélation de Dieu, c'est ce que Ésaïe a connu, c'est ce que Dieu veut qu'on connaisse. La crainte de Dieu. On le lit dans la Bible et souvent on ne comprend pas. On dit c'est quoi? Il faut avoir peur, mais on ne doit pas avoir peur. C'est écrit l'amour bannit la crainte. Alors pourquoi il est parlé de la crainte de Dieu? Mais justement, c'est ce que vivent ces chrétiens dans les réveils. C'est que Dieu, le Dieu trois fois saint, est tellement présent que c'est même pas qu'ils pensent à la crainte de Dieu, c'est qu'ils la vivent. Ils sentent la grandeur, la hauteur, la sainteté, la gloire de Dieu. Ils la voient, non pas avec leurs yeux, mais avec la foi. C'est certainement ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Dans nos cultes, dans nos réunions, et dans nos prières, et dans nos vies de tous les jours, on peut avoir une bonne théologie, ce qui est important, parce que le Nouveau Testament en particulier, c'est beaucoup de théologie, hein. Ils avertissent contre les erreurs, attention, pensez à ci, voyez ça. Mais dans les Épîtres et dans les Nouveaux Testaments, il y a des passages aussi où d'un seul coup, Paul, il se met à louer le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, dans l'Épître aux Romains. À lui toute la gloire. Il commence à partir Pierre aussi, pendant qu'il écrit, ou Jean. Et au milieu d'un exposé théologique, il se met à louer le Seigneur. On voit que ces hommes. Le Seigneur était présent dans leur vie. Ce n'était pas juste intellectuel, ce n'était pas juste des théologiens. Il y avait cette réalité de Dieu dans leur vie. C'est ce qui est arrivé à Ésaïe. Et on peut revenir à notre pauvre Ésaïe qui vit quelque chose d'écrasant lui aussi, hein, au chapitre 6. Et au verset 5, il dit. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est vraiment typique du réveil, lorsqu'on, devant la sainteté de Dieu, tout ce qu'on peut dire, c'est malheur à moi. Même si on est chrétien depuis 50 ans, 25 ans, 30 ans, même si on sait qu'on a la vie éternelle, c'est pas ça le problème, c'est que d'un seul coup, on est devant le Dieu saint. On est dans le ciel, on est dans l'éternité. Et là, il n'y a plus de faux-semblants, il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de masques, tout tombe. On est nu. Totalement nu. Ésaïe, c'était quand même un prophète. Il avait été élevé dans la foi par ses parents. C'était pas un débauché. Mais qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, je suis perdu. Hein. Presque, il dit, je ne suis pas sauvé, quoi. Mes lèvres sont impures, je n'ai pas le droit de parler au nom du Seigneur, mais qui suis-je, moi, pour être un prophète? Mes lèvres sont impures. James Burns raconte, c'est un pasteur baptiste américain du début du XXe siècle. Aux États-Unis, il a connu un réveil. Il dit, chaque faute, chaque petite méchanceté, chaque trahison, chaque hypocrisie se révèle à nous. Nos péchés nous traînent jusqu'au lieu du jugement. Et là, nous crions de désespoir. Il parle de désespoir. Une terreur se saisit de nous. Sous la pression du Saint-Esprit, des hommes tombent à genoux en pleurant et en gémissant, leur conviction de péché brûlant comme un feu. Bien que cette terreur de l'Éternel, hein, comme dit la Bible, la terreur de l'Éternel, hein, soit remarquable, elle n'est pas ressentie comme une punition, elle est en fait inspirée par le fait que nous nous sommes rebellés contre l'amour de Dieu. Nous n'avons pas donné gloire à Dieu. Nous avons crucifié notre Seigneur à nouveau par notre rébellion. Et voilà le péché qui, au-dessus de tous les autres, donne à l'âme réveillée sa plus poignante amertume. Et il souligne que ce qui fait le plus mal, pour les chrétiens devant la sainteté de Dieu. Ce n'est pas des péchés de débauche, ce n'est pas ça, parce que normalement ils ont disparu plus ou moins de notre vie, je l'espère. Mais c'est le fait d'avoir trahi le Seigneur, d'avoir péché contre son amour, contre sa grâce, d'avoir méprisé sa grâce. Hein. Le Seigneur m'aime, le Seigneur me bénit, le Seigneur me protège, le Seigneur m'a sauvé, m'a donné la vie éternelle. Et moi? Je vis égoïstement, je vis sans penser à lui, je prie de temps en temps. Quand le Saint-Esprit me dit quelque chose, je dis, bon, on verra plus tard. Une chose qui est frappante dans les réveils, c'est que lorsque Dieu a utilisé certains prédicateurs, et je pense à Evan Roberts au Pays de Galles en 1904, son message n'était pas compliqué, c'était « obéissez au Saint-Esprit ». Il disait ça aux chrétiens, hein, bien sûr. « Obéissez au Saint-Esprit ». Et ça suffisait pour que les gens soient convaincus de péché parce qu'ils savaient qu'ils n'obéissaient pas au Saint-Esprit. Quelque part, quand on est enfant de Dieu, on n'a pas d'excuse. Quand on est sans le Saint-Esprit, ben c'est normal qu'on pêche. On a une nature pécheresse, on nage dans le péché, on vit dans le péché. Mais quand on est sauvé, quand on est réconcilié avec Dieu, la Bible dit qu'on est délivré de la puissance des ténèbres. Pourquoi est-ce qu'on continue à pécher? Paul, il écrit en Romains 6, est-ce que nous allons continuer à pécher pour que la grâce abonde? Loin de là. On doit être mort au péché, ça doit être terminé ça, la vie de péché. Et c'est ça que réalisent les chrétiens dans le réveil. L'étendue de leur péché alors qu'ils sont chrétiens. Je pense que c'est pire à vivre. Encore plus, encore pire. C'est pour ça qu'ils tombent de désespoir en disant « il n'y a plus rien pour moi. Je t'ai déshonoré, Seigneur. J'ai des idoles. Moi, le chrétien, j'ai des idoles dans ma vie. » Alors bien sûr, il y a aussi des faux chrétiens dans les assemblées. Hein. Des gens qui viennent là par tradition ou par famille. Hein. Il y a des églises, par exemple, protestantes, où on était baptisé bébé, donc les gens se pensaient chrétiens parce qu'ils étaient fils de chrétiens, et en fait, ils n'étaient pas nés de nouveau. Là, ils ont été touchés aussi, de plein fouet. Mais il y avait vraiment des âmes nées de nouveau, là, mais qui ne vivaient pas pour le Seigneur. Ils n'étaient pas consacrés à Dieu. Et là, ils ont une nouvelle révélation de Dieu et d'eux-mêmes. Face à Dieu, là, quand on est face au Dieu Saint, je m'en fiche d'être admiré ou pas. C'est ça qui m'a frappé dans les récits des réveils. Même les prédicateurs, les hommes qui ont été utilisés pour certains réveils. Hein, des fois, c'était juste une réunion de prière. Mais des fois, il y avait un prédicateur qui était comme Paul, un peu le ou Luther, hein, l'étincelle. Evan Roberts, par exemple, des fois, il ne prêchait pas du tout dans les réunions. Parce qu'il sentait que le Saint-Esprit ne le permettait pas. Donc il restait assis, il se levait. Alors il sentait qu'il y avait un calme, les gens arrêtaient de pleurer ou de chanter. Il y avait un petit silence, il se levait pour aller prendre la Bible et hop, ça repartait. Et il y a encore quelqu'un d'autre qui pleurait sur ses péchés, qui disait « Seigneur, pardonne-moi, je suis sale, veuille me laver. » Et puis un chant qui démarrait, une prière, hop, il se rasseyait. Et puis il arrivait des fois à placer un ou deux mots et ça durait jusqu'au matin, ça n'arrêtait pas. Des fois, il y a des réunions qui ont duré une semaine. C'est-à-dire, pendant une semaine, l'Église n'a pas désempli. Il y a des gens qui venaient de partout pour pleurer, demander pardon et être sauvés. Ça n'arrêtait pas. Alors une petite Église, des fois, c'était une petite chapelle hein, qui contenait 100 personnes. Et il y en a 3000 qui sont circulés là, dans tous les environs qui venaient. Ils étaient touchés. Ils disaient, moi, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de dire mes péchés au Seigneur. Quand je suis face à Dieu, je ne m'intéresse plus à ce que les autres pensent de moi. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce que Dieu pense de moi. Ça change tout. Et mon orgueil, je le vois avec dégoût. Alors là, je pense, dans ces situations, l'orgueil, c'est là, quoi, devant mon orgueil. Et ça devient dégoûtant, on le vomit. Alors qu'avant, on vivait très bien avec, en disant « je suis quand même quelqu'un de bien ». Voilà, on se flattait, on se comparait aux autres. Là, on est nu. On est comme devant le jugement de Dieu. Devant le jugement de Dieu, on ne va pas se la jouer, on va être nu. Et même, on ne pense pas aux autres à la limite, c'est chacun devant Dieu. Hein. Voilà. Et on pense aux autres après. Après, il y a l'amour de Dieu. Mais sur le coup, c'est la sainteté. C'est Ésaïe, là. Malheur à moi, je suis perdu. Et à ce moment-là, on ne tolère plus les péchés habituels hein, devant la sainteté. Parce que le chrétien garde un certain nombre de péchés qu'on appelle mignons. On dit ça d'une façon un peu cynique. C'est les petits péchés qu'on accepte, qu'on tolère en disant « c'est pas trop grave ». Mais là, devant la sainteté de Dieu, les péchés mignons deviennent horribles, abominables. Et comment j'ai pu garder ça dans ma vie? C'est pas possible. Toutes les convoitises qu'on a, matérielles, mondaines, qu'on garde des fois ou qui nous attire encore, ça s'envole, c'est fini. Tout ce qui nous intéresse, c'est le Seigneur, c'est son amour. Ça remplit tellement que le reste n'a. Mais vraiment, même on rigole. Tu crois que tu vas m'attirer avec ça? Terminé. C'est Jean hein, qui parle des convoitises, hein, des yeux, convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Il dit ça, c'est l'amour du monde. Quand vous avez la convoitise des yeux, oh, je vois, je veux. Convoitise de la chair, c'est-à-dire je désire, j'aimerais avoir quelque chose, il me manque quelque chose. Et l'orgueil de la vie, je suis quelqu'un, j'ai pas besoin de Dieu. C'est trois choses. C'est l'amour du monde et c'est inimitié contre Dieu. Dieu remplit notre vie, ces trois choses disparaissent. N'y a plus l'amour du monde, c'est fini. Les séraphins sont touchants dans ce passage d'Ésaïe parce qu'ils ont six ailes. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs ailes? Avec deux ailes, ils volent, mais avec les quatre autres, ils se couvrent la face et ils se couvrent les pieds. Pourquoi ils se couvrent la face et ils se couvrent les pieds? C'est face, voilà, à la triple sainteté de Dieu, même les anges. Dieu sait s'ils sont purs. Mais la Bible dit, hein, Dieu trouve de l'impureté même chez ses anges. Par humilité, on peut dire. Hein, ils se voilent devant Dieu en disant, nous ne sommes pas dignes de regarder le Seigneur en face. Les anges, et pas n'importe quel ange, les séraphins qui gardent la gloire de Dieu, ce qui est sculpté sur l'arche d'alliance, hein, les deux anges qui se tiennent comme ça pour garder la gloire de Dieu, ce sont des séraphins. C'est les anges les plus proches, hein, les chérubins, les séraphins. Ils se cachent. Alors, le pécheur que nous sommes, le chrétien, le petit chrétien, quand il voit la sainteté de Dieu, combien plus on devient humble. Le réveil en Mandchourie, en Chine, 1906-1909. Je vous donne des exemples un peu partout dans le monde. Parce que Dieu est partout dans le monde. Un témoin raconte, je ne peux même pas décrire cette scène. On se serait cru au jour du jugement dernier. Dieu est venu parmi nous. Quant à moi, j'ai eu la plus intense réalisation de la sainteté de Dieu de toute ma vie et de ma saleté face à Dieu. Pasteur Azael Nettleton, 1783-1844. Cheval sur le 18e et le 19e, il a connu le deuxième grand réveil américain dans le Connecticut. Il y a eu plusieurs vagues de grands, grands réveils à l'est des États-Unis. Il était dans une réunion près de Saratoga Springs en 1819, il raconte. La pièce était tellement remplie que nous étions obligés de dire à ceux qui avaient trouvé le repos de leur âme de partir pour laisser la place aux autres. Je n'oublierai jamais cette soirée. C'est difficile à décrire. Et ils disent tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu 200 pécheurs en même temps, d'un seul accord, qui pleuraient sur leurs péchés? C'est comme si j'étais sur le seuil du monde éternel. Le sol tremblait sous mes pieds tellement les âmes étaient secouées par le jugement. Et soudain, tous fléchissent le genou devant le trône de la grâce. Et le silence de la prière, et tous ces gens sont, à un moment, sont silencieux. Était parfois interrompu par les sanglots des âmes angoissées. Même les cœurs les plus endurcis se sont retrouvés dans la plus grande détresse. Bornéo. Réveil en 1973, petite île, hein, du Pacifique, je pense. Les réunions sont tellement différentes par rapport à avant, après le réveil. Quand le Saint-Esprit est descendu sur la congrégation, les gens ont commencé à gémir très fortement. Parfois, il y en avait 20 ou 30 en même temps qui pleuraient et gémissaient sur leurs péchés, en demandant pardon à Dieu pour leurs péchés. Certains demandaient même pardon en public aux frères avec qui ils étaient fâchés. Après que la question de leurs péchés a été réglée par le pardon que Dieu nous accorde, la réunion continuait par des chants glorieux avec des larmes de joie. Et c'est ça qui est quelque chose aussi dans les réveils, c'est qu'il y a une grande repentance, une conviction de péché écrasante. Les gens sont écrasés, ils n'arrivent plus à tenir debout, physiquement. Et en même temps, juste après, il y a la joie inexprimable parce qu'ils savent que le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, tous nos péchés. Et donc, ils trouvent le pardon. Mais ils ont d'abord ce fardeau intense et terrible de dire tout au Seigneur, d'être propre, d'être absolument lavé de tout péché par son sang. Et là, il y a les chants de joie. Dans Ésaïe, c'est un séraphin qui vient prendre une braise, probablement de l'autel des parfums, là, et il la met sur sa bouche. Il dit « Ta bouche est purifiée ». Et Ésaïe trouve ainsi une image du pardon. Il est purifié. Le feu purifie. Hein. Et juste après, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Le Seigneur cherche quelqu'un pour le servir. Et qu'est-ce que dit Ésaïe immédiatement ? Me voici, envoie-moi. Il est prêt parce qu'il est pardonné, parce qu'il est purifié. Là, maintenant, il est prêt. Il pensait qu'il était prêt avant, probablement. Mais c'est maintenant qu'il est vraiment prêt. Et il a une nouvelle vision de ce qu'est le service pour le Seigneur. Il est rempli maintenant de cette présence de Dieu, de cet amour de Dieu. Dans les réveils, il s'ensuit une adoration qui est totalement différente, un amour pour les âmes perdues qui est totalement transformé, qui brûle, les gens brûlent d'amour pour les perdus. Et c'est pour ça que les réveils amènent beaucoup de conversions. Les conversions sont la suite du réveil, mais le réveil commence, comme je l'ai dit au début, avec les chrétiens qui ne marchent pas selon la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Et Dieu vient les réveiller, dire « Hé, je suis mort pour toi, je suis ressuscité, je t'ai donné le Saint-Esprit ». Je t'ai donné toute la puissance, toute la bénédiction spirituelle et toi, tu vis comme un clochard spirituel. Tu es un chrétien tout petit, tout minable, tout désobéissant, tout sale, alors que tu devrais être un enfant de Dieu qui glorifie ton Seigneur, qui donne toute la gloire à Dieu. Et c'est ça qui nous manque évidemment le plus. C'est pour ça aussi que nos cultes d'adoration ne sont pas assez dans l'adoration. C'est que pour avoir l'adoration, il faut rencontrer Dieu. On adore Dieu. Si on n'a qu'une idée intellectuelle de Dieu, on va avoir une adoration intellectuelle. Mais si on a rencontré Dieu dans la prière, dans la foi, dans les épreuves, c'est souvent dans les épreuves. Job, il a rencontré Dieu à quel moment ? Quand il était au plus bas. C'est là que Dieu s'est révélé à lui. Et des fois, on dit, oh, les épreuves, les maladies, j'en ai assez. Oui, mais n'empêche que c'est là que Job il a rencontré Dieu. Jusque-là, il avait une vie de bon juste. C'était un patriarche, tout se passait bien dans sa vie, mais il lui manquait quelque chose. Et Dieu lui a dit, il te manque quelque chose, Job. Et après qu'il ait rencontré Dieu, sa vie a été transformée. Nous aussi, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur. Juste avant qu'on prie, est-ce que vous auriez des questions sur les réveils qui vous brûlent les lèvres, que vous ne restiez pas dans une confusion, dans une mauvaise compréhension? Alors si, peu, mais il y en a eu. Mais même par exemple dans le Nord, l'église de Somain où nous allons est le fruit d'un réveil. En quelques années, il y a une dizaine d'églises baptistes qui se sont formées à travers un réveil d'un groupe de jeunes. Voilà, dans les années 50, 60, je crois. Voilà, ça, c'est pas vieux. Et puis, il y a eu le réveil à Paris avec la fille Catherine Booth, la fille de l'Armée du Salut. C'était à la fin du 19e siècle à Paris, dans le monde ouvrier. Il y a eu des réveils avec les Vaudois. Il y a eu des réveils dans le Moyen-Âge aussi avant. Hein. Mais la France n'est pas le pays où il y en a eu le plus, ça, c'est sûr. Oui. Non. C'est ça. Là, on a une petite cuillère dans l'océan. Hein. Oui. Oui, on peut le dire. C'est vraiment une grâce parce que il y a une purification extraordinaire, il y a une révélation profonde de Dieu aux chrétiens. C'est merveilleux. Mais je pense que cette grâce, Dieu veut la donner à tous aussi. Ce n'est pas réservé à une élite ou je ne sais pas, ou pourquoi eux? Pourquoi eux? Parce qu'ils ont prié. C'est quand même ça, là, Dieu a répondu, a exaucé. Oui. Oui. Alors, au vu de ce que j'ai lu, je dirais que Dieu veut qu'on parle de lui plus que de politique quand on est ensemble. Dieu veut qu'on soit plus intéressé aux choses éternelles que l'on est actuellement. Et Dieu le veut tout le temps. C'est ce qu'il demande. Et le réveil, c'est quand on ne le fait pas. C'est quand Dieu dit, mais tu passes à côté, là, de tous les trésors de la foi. Et le réveil, on ne peut pas se préparer au réveil. Le réveil, Dieu l'envoie et pff, en général, c'est quand ça va mal, le réveil. Le réveil vient dans les situations où le pays s'est éloigné de Dieu, où il y a une profonde. Même il y a, dans l'Église, la situation est. Il y a beaucoup d'idolâtrie, de fausses doctrines, de choses comme ça, d'endormissement, les églises dorment. C'est là que vient le réveil, le plus fortement. On ne peut pas se préparer, on peut demander le réveil, et par contre, on doit vivre dans la plénitude, ça c'est sûr. Mais ça ne va pas forcément accélérer le réveil ou quoi que ce soit, mais on doit être réveillé. Voilà. On ne peut pas créer le réveil, on ne peut pas créer, j'ai pas lu, mais là il dit, on ne peut pas imiter les effets du réveil. Vous pouvez faire des séances d'auto-flagellation, tout le monde pleure, ce n'est pas le réveil. Voilà. Et il raconte qu'il y a des réveils selon les cultures et les peuples. Hein. Les Gallois, par exemple, sont très émotionnels. Et donc, au Pays de Galles, alors là, c'était beaucoup de pleurs, beaucoup de choses émotives, et même un peu qui nous choqueraient certainement. Hein. Des comportements, pas indécents du tout, hein, mais des comportements assez émotionnels c'est quoi ça? Voilà. Mais il y a d'autres pays ou d'autres endroits où c'est très calme. Les gens pleurent, mais il n'y a pas de froufrou. Et donc ça dépend des cultures, et ce n'est pas ça le réveil. Hein. C'est les effets qui se comptent, ce n'est pas l'apparence. Par contre, le réveil du Pays de Galles en 1904 a été arrêté malheureusement. Trop vite à cause des débuts du pentecôtisme qui arrivaient avec des personnes qui ont utilisé le réveil pour faire valoir des fausses doctrines pentecôtistes. Le début du pentecôtisme était à ce moment-là et ça a arrêté le réveil. Evan Roberts, lui qui était l'instrument, s'est retiré très vite. Il a dit c'est plus ça va pas et il a passé le reste de sa vie dans la prière. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il a dit, moi je vais prier parce que je vois que quand je viens, d'abord les gens ils me cherchent moi, parce que Evan Roberts, alors il disait non, pas bon ça, je veux qu'on cherche Dieu. Donc il s'est retiré, il n'a plus prêché. Et c'est pareil avec cet homme qui a de réveil en Écosse, il est parti comme missionnaire en Chine au temps de Hudson Taylor. C'était un instrument d'un réveil extraordinaire en Écosse. Il est parti en Chine. On n'a jamais plus retrouvé sa trace. Il est mort, on ne sait pas où. Il a disparu. Psst. Et en fait, il le voulait. Il dit, moi, je ne veux pas qu'on croie que c'est moi le réveil. Le réveil, c'est Dieu. Moi, Dieu m'a utilisé un moment, mais c'est tout. Et il est parti semer l'évangile. Donc, voilà, on ne peut pas imiter. Enfin, on peut essayer d'imiter, mais ce n'est pas ça. Y a-t-il une autre question? Oui? Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais pas obligé, pas obligatoirement. Mais il faut être prêt à persévérer. Parce que certains ont attendu longtemps, d'autres, ils ont prié. Je vous avais donné l'exemple la semaine dernière. Hein. Ils avaient fait une semaine de prière pour le réveil, et à la fin de la semaine, il y avait le réveil. Bon, c'est un cas. Il y a d'autres, c'est des années, voilà. Oui, c'est ça, c'était. Mais même si on priait jour et nuit pendant une semaine, c'est pas sûr que. Voilà. Mais il faut persévérer. C'est ça, on est dans une époque où, en France aussi, avec la situation, l'islam, l'absence de foi des Français, le manque de conviction de péché absolue, hein, les gens se trouvent très bien, le renversement des valeurs, il y a vraiment besoin d'un réveil, et les églises aussi ont besoin de revenir à la parole de Dieu, de revenir au Seigneur, et nous avons besoin d'un réveil dans notre assemblée. Oui, David. Pas spécialement. J'ai lu pas mal de récits, c'est pas ce qui est mis en avant. Il est probable que ceux qui priaient beaucoup ne mangeaient pas parce qu'ils passaient leur temps à prier, si on peut dire. Enfin, ne mangeaient pas pendant qu'ils priaient. Mais c'est pas mis en avant comme quelque chose, comme une clé particulière. Voilà. Mais c'est souvent lié à la prière. C'est quand tu pries pendant 6-7 heures, tu manges pas. Donc, voilà. Oh. Oui, ça nous dépasse un peu tout ça. Oui, il disait par exemple, il y avait des réunions qui duraient 10 heures pendant les réveils. Et il dit, au bout de 10 heures, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure que j'étais là. Voilà, un des témoins. Il dit, les heures durent des minutes, quoi. Parce que tu baignes dans la présence de Dieu, tu es dans l'éternité, quoi. Alors que nous, si ça dépasse un petit peu de 5 minutes, oh là là. Et donc, c'est ça, c'est un autre esprit, une autre. Oui, c'est bien. Très bien. D'accord. Réunion de prière mardi, mercredi, jeudi, en plus du lundi. Et puis, on peut prier spécialement pour le réveil pendant ces réunions. Autant le lundi, on intercède pour les frères et sœurs, mais autant dans ces réunions, on peut axer que le Seigneur bénisse. Justement, on va s'incliner dans la prière. Est-ce que vous voulez prier?
Seigneur, qu'on soupire à plus et à ce réveil personnel et collectif. Et Seigneur, c'est bien qu'il y ait des idées pour les bonnes prières, les jours qu'on vient indiquer. Seigneur, il faut aussi que tu mettes à cœur pour ceux qui ne peuvent pas honorer toutes ces réunions, aussi de s'engager à prier chez eux. Et Seigneur, nous sommes l'Église.
Amen. Amen.
Père Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Créateur de toutes choses, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, parce que nous sommes tous ici pour te louer, pour te glorifier et pour t'aimer, Seigneur. Et Seigneur, je viens devant ton trône de grâce, Seigneur, je me présente devant toi, sois apaisé envers moi qui ne suis qu'un pécheur, Seigneur, et Seigneur, je viens te demander pardon pour mon impatience, pour mon manque de compassion, pour mon manque de tolérance et pour tous mes manquements, Seigneur. Parce que je veux garder ta parole, Seigneur. Je veux garder tes commandements, Seigneur. Je veux suivre tes préceptes, Seigneur. Je veux être un bon disciple, Seigneur. C'est là mon désir, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie de ce que tu fais pour nous. Parce que, Seigneur, je ne veux pas oublier toutes tes bénédictions, Seigneur, que tu as l'égard de nous, Seigneur. Tu es un grand amour pour nous. Ton amour est grand, Seigneur. Et cet amour, Seigneur, eh bien, que nous puissions partager pour tous que nous voulons aimer, Seigneur. Parce que ça, c'est l'amour qui doit vaincre, qui doit gagner sur tous les hommes et sur toutes les femmes de la terre, Seigneur. Que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. Et Seigneur, qu'il y ait un réveil pour cette église. Parce que, Seigneur, je suis heureux et fier de pouvoir te prier tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je suis bien dans ta présence, Seigneur. Parce que je sais que tu es là, à nos côtés, que tu écoutes nos prières. Je le sais, Seigneur, tu es. Parce que c'est écrit dans la parole. Et la parole est la vérité. Et la vérité, c'est ta parole. Elle est plus efficace. Elle est efficace. Elle est vivante. Elle est tout pour nous. Elle est notre nourriture spirituelle. Nous avons besoin de ta parole. Et nous voulons garder ta parole dans nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Pour que nous puissions te suivre et suivre le bon chemin. Le chemin de la sainteté. Et Seigneur, que tout ce qui a été dit par mes frères et sœurs, je m'accorde avec eux et que tout se fasse selon la volonté du Père Céleste au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Père Céleste, tu as dit persévérer dans la prière. Tout ce que nous entendons ici, Seigneur, que cela ne soit pas vain. Et que nous ayons tous la volonté d'aller de l'avant. C'est en persévérant qu'on a ce qu'on veut. Ô Père Céleste, pardonne-nous de nos fautes. Nous sommes des pécheurs tout le temps. Mais Seigneur, nous voulons aller de l'avant. À toi de nous réveiller, Seigneur. Même si on dort, réveille-nous, prier sans cesse, Seigneur. Ô Père Céleste, ce que nous avons entendu ce soir, que cela soit au coin de notre tête. Et que nous ayons la force d'aller de l'avant, Papa. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur.
Amen.
Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs, Seigneur. Et toi, tu es là pour nous relever.
pour nous réveiller. Seigneur, nous avons besoin vraiment d'un réveil. Accorde-nous cette opportunité.
Oui.
Amen.
Amen. Ouais.
Et que nous soyons souvent fautifs, Seigneur, nous méchants, nous égarons. Seigneur, nous sommes souvent pas dignes d'être appelés tes enfants. Et toi, tu nous aimes, Seigneur, et tu veux nous fortifier. Seigneur, je te prie vraiment de nous rappeler le sacrifice à la croix, Seigneur. C'est immense. Seigneur, tu as envoyé ton propre fils, Seigneur.
Ouais.
Seigneur, tu vois que les réveils commencent par des chrétiens qui s'attachent à ta parole, Seigneur.
Ouais.
Qui s'attachent à tes commandements, Seigneur. Seigneur, vraiment, travaille nos cœurs. Donne-nous un fardeau, Seigneur, pour ce vapeur. Nous sanctifier, Seigneur.
Ouais.
Nous glorifier. Nous approcher de toi, Seigneur. Seigneur, n'oublions pas qu'il y a des âmes perdues, Seigneur. Qui vont en enfer chaque jour, Seigneur.
Ouais. Ouais.
Seigneur, vraiment, réveille-nous, Seigneur. Notre vie puisse vraiment refléter cet amour que tu as envers nous, Seigneur, envers tous les hommes. Seigneur, vraiment, purifie-nous. Nous soyons des outils utiles entre tes mains, Seigneur. Tu puisses nous utiliser selon tes plans parfaits, Seigneur. Seigneur, lorsque tu demanderas à qui enverrai-je, Seigneur, nous n'ayons pas honte de nous lever pour toi, Seigneur.
Amen. Ouais.
Tu as besoin de tes enfants, Seigneur.
Ouais.
Obéissant. Tu as besoin d'outils, Seigneur.
Ouais.
Avant, c'est notre travail.
Amen. Jésus sera le premier pour moi. Roi de ma vie, je veux suivre ses pas, vivre de son amour, compter sur son secours. Jésus sera le premier pour moi.